Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi 32.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 28 janvier 2019, les 80 km/h stop ou encore, voilà ce qu'en dit Édouard Philippe.
Je crois donc qu'il est tout à fait légitime de discuter de ce sujet, mais qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition. Il serait inouï de prendre des décisions qui auraient pour impact de faire augmenter le nombre de morts sur la route.
Pas d'abandon, mais des adaptations possibles dans les départements, d'autant que le nombre de décès sur la route n'a jamais été aussi bas. 3 259 morts l'an dernier. D'après le Premier ministre, 116 vies ont été épargnées grâce aux 80 km/h. Décryptage à suivre. Réaction du président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau. Ils sont venus chercher l'un des leurs devant le palais de justice. Un commando armé a attaqué ce matin une escorte pénitentiaire à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, pour libérer le détenu. 6 morts de la grippe dans la même maison de retraite dans le Loiret. Parmi les victimes, un membre du personnel qui était pourtant vacciné. L'homophobie, ça suffit. Une nouvelle campagne est lancée aujourd'hui dans les écoles alors que le nombre de signalements ne cesse d'augmenter. La météo. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
C'est le calme avant la tempête.
Oui, aujourd'hui on est entre deux dépressions. Celle d'hier qui donne encore des averses de neige jusqu'à très basse altitude sur les régions de l'Est jusqu'au Massif Central. Soleil près de la Méditerranée cet après-midi mais toujours avec du Mistral et de la Tramontane. Et puis sur l'ouest du pays, c'est la calmie. Quelques éclaircies entre les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France et le centre, mais le temps est déjà très nuageux sur la côte à l'Atlantique, à l'avant de cette fameuse tempête Gabriel qui va balayer tout le pays entre mardi et mercredi soir, et les températures pour cet après-midi de saison de 2 à 14 degrés.
La question du jour sur RTL.fr à propos des 80 km/h, faut-il appliquer la mesure au cas par cas? Vous dites oui à 76%, 19% de non. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle. Les 80 km/h, Michel Legrand, Henri Chapier, à tout à l'heure.
32. Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer donc cette évasion spectaculaire devant le palais de justice de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, un détenu devait être conduit devant un juge d'instruction. Il a été libéré par un commando lourdement armé qui a frappé le personnel pénitentiaire et qui a même tiré des coups de feu. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, et ce sont 11 étuis d'armes de poing et de fusils d'assaut qui ont été retrouvés sur place pour ce que le procureur qualifie de guet-apens. À 8h30, alors que le véhicule de l'administration pénitentiaire arrive à l'arrière du tribunal, le chef d'escorte descend pour demander l'ouverture du portail. C'est à ce moment-là que deux individus jaillissent. Ils frappent l'agent à coups de crosse et alors que la fourgonnette tente de s'enfuir, les deux malfaiteurs ouvrent le feu. L'arrière du véhicule et surtout le pare-brise avant est touché. On a frôlé la catastrophe, déplore le procureur. C'est en tout cas une opération très bien organisée.
On est de toute évidence face à des individus qui l'ont préparé. Donc une préparation et surtout une très grande détermination, vraiment. C'est ce qui ressort des images vidéo.
Les malfaiteurs ont réussi à s'enfuir, sans doute en voiture. Le profil de ce détenu de 27 ans est assez chargé. 14 condamnations sur son casier judiciaire et une montée en puissance ces derniers temps avec des mises en examen pour vol aggravé. Deux des agents ont été légèrement blessés au visage et aux avant-bras par des éclats de verre.
Étienne Baudu devant le tribunal de Tarascon pour RTL. Comment assouplir une mesure sans avoir l'air de reculer? C'est à cet exercice de contorsionniste que s'est livré ce matin le Premier ministre Édouard Philippe à propos d'une mesure qui lui est chère, l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Ce serait fou de revenir en arrière, a-t-il expliqué, mais les départements pourront décider au cas par cas, Dominique Tenza.
Oui, absolument. Édouard Philippe qui s'engage à fournir à chaque président de conseil départemental dès le mois prochain le chiffre des accidents recensés sur leur territoire et qui les engage, non sans arrière-pensée, à prendre, eux, leurs responsabilités.
Chaque président de conseil départemental pourra réagir et faire part de ses propositions. Mais il serait inouï de prendre des décisions qui auraient pour impact de faire augmenter le nombre de morts sur la route.
Si les départements font donc le choix de ressortir les panneaux 90, ce seront leurs décisions, leurs choix, et ils devront, c'est ce qu'Édouard Philippe leur dit, en filigrane, ils devront assumer leur mort. Le Premier ministre qui a longuement, devant de grands accidentés de la route ici, défendu sa mesure en balayant d'éventuelles tensions avec le président.
Il n'y a aucun bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre. Nous avons pris nos responsabilités. Ce n'est pas le genre de la maison de ne pas assumer. Nous avons dit qu'il y avait un débat. Moi, je l'aborde avec des convictions, ce débat.
Il aura en tout cas, jusqu'au bout, défendu cette réforme, certainement la plus impopulaire qu'il ait prise depuis son entrée en fonction. Celle aussi, sans doute, qui lui tient le plus à cœur.
Édouard Philippe avait choisi de faire cette annonce à Coubert, en Seine-et-Marne, au centre de polytraumatisés. Il en a profité pour révéler l'excellent chiffre de la sécurité routière. 3259 tués en 2018, c'est absolument historique. Et le Premier ministre ajoute que 116 vies ont été épargnées depuis l'entrée en vigueur de la mesure il y a 6 mois, Christophe Bourou.
Oui, jamais les chiffres n'ont été aussi bas, surtout après 4 années de hausse. Ainsi, en 2018, il y a eu 9 morts de moins qu'en 2013, jusqu'alors meilleure année de référence. Et au total, 189 vies ont été épargnées, en baisse de 5,5% en un an. Recul général pour toutes les catégories d'usagers, comme les deux roues motorisées, moins 4%, moins 3,5% pour les cyclistes. Recul aussi pour le nombre de blessés de près de 4000 personnes. Alors, en ce qui concerne le sujet des 80, il y a bien eu un effet, une diminution du nombre de victimes depuis le 1er juillet, a dit le Premier ministre. 116 tués en moins, en effet. Cela s'est accompagné d'une baisse des vitesses. Dans le détail, moins 3,9 km/h pour les voitures et moins 1,8 km/h pour les poids lourds. Si elle se félicite des bons résultats, déjà les associations d'automobilistes estiment que l'effet 80 n'a pas joué ou très peu. En effet, pour eux, la mortalité routière a été déjà largement orientée à la baisse avant l'entrée en vigueur de la mesure. En revanche, pour la sécurité routière, ces résultats auraient pu être meilleurs sans les dégradations des radars. 60 vies supplémentaires auraient pu ainsi être épargnées entre novembre et décembre dernier.
Pour aller plus loin, nous sommes avec Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France et ancien ministre des Transports. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez bien compris la position d'Édouard Philippe ? C'est un ajustement ou un recul ?
Écoutez, moi je suis d'abord heureux de la baisse. Elle est historique et depuis 2002, depuis Chirac, ça a toujours baissé, sauf pendant 2 ans sous les gouvernements de François Hollande. Mm-hmm. Donc c'est formidable, la baisse de la vitesse y participe. Mais j'observe quand même en ce moment qu'il y a énormément de radars vandalisés, ce qui pose problème. Et de moins en moins de contrôles de police et de gendarmerie, parce que les effectifs sont utilisés, on le comprend, à d'autres missions. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas relâcher, il faut que ces radars...
Donc ça veut dire que vous craignez que les chiffres remontent quand même.
Je crains que les chiffres remontent. Vous voyez, l'expérience qui consiste à mettre des personnes civiles dans des véhicules banalisés, on pensait que c'était dans toute la France, on s'aperçoit que c'est encore expérimental du côté de la Normandie. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet. Après, sur la vitesse, moi je suis prêt, enfin, comme tous mes collègues, on est prêt à se mettre autour d'une table dans chaque département avec notre préfet, avec le colonel de gendarmerie, le directeur départemental de la police, le colonel des pompiers, et puis de regarder au cas par cas les axes sur lesquels on peut bouger ou ne pas bouger, ou même peut-être même encore diminuer la vitesse s'il y a un risque d'accidentologie, pardonnez-moi, particulier.
Au fond, il vous renvoie la patate chaude, Édouard Philippe.
Ce n'est pas une patate chaude. On avait dit l'an passé qu'au lieu de prendre une mesure dont on savait qu'elle serait strictement impopulaire, qu'on était prêt à prendre nos responsabilités, à se mettre autour d'une table. Vous voyez, à l'instant, je suis à La Rochelle, je viens de l'île de Léron. Le viaduc de l'île de Léron, il est à 80, on peut très bien le descendre à 70 pour encore plus de sécurité. J'ai vu des parties de zone à 110 où on peut baisser la vitesse. Vous savez, quand on entre dans une ville, vous avez des panneaux 50, vous avez 40, vous avez des zones 30, et même vous avez des zones 20 semi-piétonnes. Et on est parfaitement amené et habitué à moduler sa vitesse en ville. Je pense que des modulations de vitesse sur le réseau départemental seraient également possibles et ne feraient pas baisser, bien au contraire, les risques de mortalité.
Donc du cas par cas. Ça fait un an que cette décision est contestée, Dominique Bussereau. Oui. Est-ce que l'exécutif a mal géré toute cette histoire qui a été aussi le terreau des Gilets jaunes ?
Vous savez, je pense que quel que soit le responsable, que ce soit le maire dans sa commune qui change un sens interdit, le président de département qui décide d'une mesure environnementale, le gouvernement, à chaque fois quand il n'y a pas de discussion avant, on est sûr de se planter. Et là, on a rendu cette mesure des 80 km/h impopulaire, parce qu'on l'a systématisé sans la moindre concertation, et ça a expliqué les choses, et donc on verra bien à l'issue du débat ce que le président de la République et le gouvernement en tirent comme conséquence. Mais d'ores et déjà, je dis au Premier ministre, les présidents de département sont des grands garçons et des grandes filles, on est tous des fanals de la sécurité routière, et donc si on est autour d'une table avec notre préfet, on ne fera pas n'importe quoi parce que la sécurité routière, pour chacun d'entre nous, c'est une priorité absolue.
Et vous prendrez vos responsabilités. Merci Dominique Bussereau d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. Laurent Wauquiez a tranché. Malgré le scepticisme ambiant, le président des Républicains a choisi François-Xavier Bellamy comme tête de liste pour les élections européennes. La candidature du jeune prof de philo, adjoint au maire de Versailles, sera examinée demain par la Commission nationale d'investiture du parti. Dans un instant, 6 morts de la grippe dans un EHPAD du Loiret.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
6 morts de la grippe dans la même maison de retraite depuis le début du mois. Ça s'est passé à la chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. 4 résidents de plus de 90 ans ont succombé au virus. Plus 2 membres du personnel, dont une personne qui avait été vaccinée. Alors on s'interroge, Odile Pouget. S'agit-il vraiment de la grippe et est-ce un cas exceptionnel?
Alors des investigations sont en cours, bien sûr. La seule certitude pour l'instant, c'est que le 4e résident, mort samedi matin au CHU d'Orléans, souffrait bien de la grippe. Ce n'est pas un scénario exceptionnel. On se souvient notamment des 13 morts il y a 2 ans dans un établissement près de Lyon. Là, ce qui est plus rare, c'est en effet le décès de 2 soignants dont l'un, c'est sûr, s'était fait vacciner.
Et il faut savoir que le vaccin ne couvre pas intégralement le risque.
Non, jamais à 100%, même si comme cette année, on le dit efficace, puisqu'il est composé des 2 virus qui circulent, le H1N1 et le H3N2. Vincent Hainouf, responsable du Centre national de recherche sur la grippe à l'Institut Pasteur.
Il faut savoir que des personnes vont bien réagir, vont fabriquer des anticorps en conséquence, et d'autres ne les fabriqueront pas en grande quantité.
Et c'est le cas des personnes très âgées dont le système immunitaire défaillant ne permet pas une bonne protection. Pour elles, le vaccin est efficace entre 15 et 20%. Pour la population générale, on est plutôt à 65-70%.
Il faut vraiment regarder l'état de santé des personnes qui sont malheureusement aujourd'hui décédées, si on était sur un terrain propice ou non au développement du virus. Des personnes qui sont déjà porteuses de maladies chroniques, par exemple, que ce soit le diabète cardiaque, des personnes avec des maladies respiratoires, évidemment, qu'elles soient jeunes ou âgées.
Depuis le 1er novembre, 259 cas graves admis en réanimation et une vingtaine de décès. Et parmi les patients hospitalisés, une très grosse majorité, 70%, n'étaient pas vaccinés.
Odile Pouget, dans quelles circonstances Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement des Gilets jaunes, a-t-il été blessé gravement à l'œil samedi à Paris? Et par quelle arme? Deux versions s'opposent toujours. La victime parle d'un tir de balle de défense, les forces de l'ordre, elles, d'une grenade de désencerclement. Et c'est bien ce que la police des polices va devoir éclaircir, Olivier Bois.
Oui, exactement, sachant que les autorités restent catégoriques ce matin. Aucun tir de LBD n'a été enregistré samedi au moment où Jérôme Rodriguez a été blessé. Alors, est-ce qu'il y a pu avoir un tir non retranscrit? Eh bien, les enquêteurs de l'IGPN sont en train de détailler les images de vidéosurveillance pour le vérifier. À ce stade, ce qu'on sait, c'est qu'un policier déclare, en revanche, avoir lancé une grenade de désencerclement et que peut-être, il le dit, il l'écrit, c'est ce qui a blessé Jérôme Rodriguez. C'est possible. La grenade de désencerclement, vous savez, quand elle explose, elle projette à la fois le bouchon en métal et de petites boules en caoutchouc à plus de 120 km/h qui ont déjà occasionné par le passé des blessures de ce type. Et puis, deuxième enjeu de cette enquête, Jérôme Rodriguez affirme que lui était parfaitement calme au moment où il est blessé. C'est ce qu'on voit sur les vidéos. Il n'est absolument pas menaçant. Côté police, on ne le conteste pas d'ailleurs. Mais en revanche, on affirme qu'il y avait à côté de lui un groupe hostile qui jetait des projectiles et que c'est la raison pour laquelle la grenade a été utilisée. Là encore, l'IGPN va devoir vérifier si les premières déclarations des policiers sont appuyées par les images de vidéosurveillance.
Jérôme Rodriguez accuse aussi les forces de l'ordre de l'avoir reconnu et de l'avoir visé. Ce que dément Laurent Nouniez, le secrétaire d'État à l'Intérieur.
Je puis à ce stade réfuter totalement le fait qu'il ait été visé délibérément, c'est totalement inexact. La vérité, elle ne sort pas de déclarations devant la presse, elle ne sort pas de conférences de presse, elle sortira des investigations judiciaires en cours et nous verrons bien les conclusions auxquelles ils arriveront. Mais à ce stade, moi, je n'ai pas d'éléments permettant de dire qu'il y a eu un tir de LBD. Encore une fois, j'insiste, à ce stade, et je m'en remets aux investigations judiciaires qui sont menées.
Laurent Nouniez avec Guillaume Chiez. François Hollande a été entendu comme témoin au palais de justice de Paris. Les juges qui enquêtent sur l'assassinat de 2 journalistes de RFI au Mali l'ont interrogé le 11 janvier dernier sur des conversations qu'il a eues en off avec d'autres journalistes dans lesquelles il aurait évoqué des informations qui semblaient contredire leurs investigations. En novembre 2013, les corps de Guylaine Dupont et de Claude Verlon avaient été découverts assassinés non loin du pick-up de leur ravisseur. On fait une pause et dans un instant, on dit non à l'homophobie.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Et cette information qui vient de nous parvenir, le MEDEF claque la porte des négociations sur l'assurance chômage en attendant une clarification du gouvernement sur le bonus-malus sur les contrats courts qui avait déjà suscité il y a quelques minutes la suspension de la participation aussi de la CPME. Ça suffit, le slogan est simplissime, mais c'est un signal d'alerte qu'envoie le ministère de l'Éducation nationale contre l'homophobie. Il lance aujourd'hui une nouvelle campagne à l'école sur le thème « Je m'engage contre les violences homophobes et transphobes ». Nous sommes avec Joël Demier, président d'SOS Homophobie. Bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez régulièrement dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves. Et pourtant, il y a un regain extrêmement important de l'homophobie. 38% de signalements supplémentaires. Ça veut dire que le message ne passe pas.
Ça veut dire surtout qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la prévention, dans la sensibilisation de l'homophobie au milieu scolaire. SOS Homophobie a sensibilisé près de 27 000 élèves en 2018. Il faut aller beaucoup plus loin et je lance un appel à toutes les personnes qui veulent rejoindre SOS Homophobie pour aller beaucoup plus loin sur la prévention et sur la sensibilisation. La campagne qui a été lancée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale est une bonne campagne qui va permettre de mettre de la visibilité sur les sujets de l'homophobie et la transphobie à l'école. Elle reste une réalité aujourd'hui, hein, vous le disiez, 38% d'augmentation des témoignages d'actes homophobes en milieu scolaire qui nous ont été signalés à SOS Homophobie. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Et cette campagne est un premier pas. Elle est un message de soutien des pouvoirs publics aux jeunes homosexuels, aux jeunes LGBT. Mais il faut continuer.
Mais quel discours tenez-vous aux adolescents quand vous allez dans ces établissements scolaires? Qu'est-ce que vous leur dites pour les sensibiliser à cette cause? Et est-ce qu'ils ont la parole libre en sachant qu'ils parlent devant leurs copains?
Tout à fait, ils ont la parole libre. On est là pour avant tout les entendre les élèves. Et on se rend compte qu'en dialoguant avec les classes, avec les élèves, bien souvent on se rend compte que l'homophobie, elle n'est pas quelque chose de naturel. Elle est quelque chose qui est lié aux idées reçues, à l'éducation qu'on reçoit. Les stéréotypes sur l'homosexualité sont nombreux et c'est ces stéréotypes-là qui nourrissent l'homophobie et qui font que les élèves sont parfois homophobes. Mais on n'est pas homophobe par nature et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut déconstruire les stéréotypes, les préjugés qui sont à la source de l'homophobie.
Est-ce que les victimes arrivent à prendre la parole quand vous intervenez aussi ou pas? Ou ça reste encore très difficile?
Oui, ça peut arriver que les victimes s'expriment directement. Et ce qui est important, c'est que les victimes parlent. Et nous, on appelle à ce que la parole se libère sur l'homophobie et la transphobie. Les passages à tabac dans la cour de récréation, dans les cages d'escalier, dans les établissements scolaires. PD qui reste la première insulte prononcée dans la cour de récréation. Tout ça, ça suffit. Il est temps de libérer la parole et de faire en sorte que toutes les victimes, et je lance un appel aux victimes d'homophobie et de transphobie, il faut qu'elles parlent aux adultes, au personnel pédagogique. Et il faut que aussi les témoins d'actes homophobes n'hésite pas à parler et à signaler quand il y a dans les cours de récréation, dans les collèges, dans les lycées, des actes homophobes.
Ce week-end, ça n'a pas dû vous échapper, le jeune Bilal Hassani a été désigné pour représenter la France à l'Eurovision. Il est déjà très connu des adolescents. Il a reçu ces derniers jours 1500 insultes homophobes à cause de son look et de son orientation sexuelle. Ça veut dire que vous avez encore beaucoup de travail à faire.
Oui, il y a un travail énorme à faire et je voudrais saluer le courage de Bilal Hassani qui en effet a gagné le pré-concours de l'Eurovision et finalement sa victoire est la plus belle réponse qu'on peut faire à toutes les insultes et à la déferlante de haine qu'il a reçue sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines maintenant. Donc et ça c'est un message d'espoir aussi pour toutes les personnes LGBT, tous les jeunes LGBT, homosexuels, bisexuels, les personnes trans aussi. Il ne faut pas les oublier, la campagne de l'Éducation nationale met l'accent sur les personnes transgenres qui ne doivent pas être oubliées parce que la transphobie est une réalité et les taux de suicide chez les jeunes LGBT sont plus élevés que dans le reste de la population.
Quatre fois plus élevés, on dit, tentatives de suicide. Hein, oui. Merci beaucoup, merci Joël Demier d'avoir été l'invité d'RTL Midi. À bientôt. Le début d'année décidément compliqué du PSG. Tous les yeux sont rivés sur le cinquième métatarse du pied droit de Neymar. À cela s'ajoutent bien des points d'interrogation sur le recrutement. À 15 jours d'un rendez-vous crucial contre Manchester United, on a envie de dire, c'est pas le moment, Philippe Sanfourche.
Eh oui, alors que la tuile Neymar devrait en principe souder le club, eh bien c'est au contraire un bras de fer qui s'intensifie en interne. D'un côté, la direction sportive, personnifiée par le portugais Antero Henrique, et de l'autre, l'entraîneur Thomas Tuchel, agacé publiquement encore hier soir de voir les blessures s'accumuler et la date de clôture du marché des transferts arriver à grands pas, sans qu'aucune recrue ne soit officialisée à ce jour.
Tout le monde m'a dit oui, mais c'est jour après jour après jour. J'espère que tout le monde sait que c'est le 27e, mais on a quoi? 3 jours. On a des objectifs dans ce club. Hein. On a des objectifs. Et l'ambition du club, de mes joueurs, de mon staff, on doit avoir des joueurs.
Tension, vous l'entendez, sur le dossier Mercato, sur le sujet Adrien Rabiot, puni par Antero Henrique, alors que Tourelle voudrait lui le faire jouer. Dans ce contexte, difficile de ne pas interpréter les récents échanges nourris entre l'entraîneur allemand et l'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger. Comme RTL vous en faisait part la semaine passée, la guerre des chefs au PSG est peut-être en passe d'être déclarée, et pas forcément au meilleur moment de la saison.
C'est prometteur. Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans une dizaine de minutes. Le PSG peut-être. Ça vous intéresse forcément?
Ah, le PSG m'intéresse beaucoup, et Neymar plus encore, le cas de Neymar. Mais moi, c'est un chiffre que je retiens de votre journal. 116 personnes qui sont vivantes.
116 vies épargnées.
116 vies épargnées. Donc après, on peut dire ce qu'on veut des 80 km/h, mais si cette mesure permet d'épargner des vies, s'il y a un rapport de cause à effet aussi direct. Alors je vois Philippe Sansfourche en face de moi qui connaît bien ce secteur de l'automobile, et peut-être n'est-il pas tout à fait d'accord, mais les auditeurs pourront répondre entre 13h et 14h. On parlera également, si vous le voulez, de Michel Legrand, d'Henri Chapier, si vous voulez rendre hommage, et puis également on parlera de SOS Homophobie et de la campagne de sensibilisation en milieu scolaire. Je pense que c'est très important, donc j'attends vos appels.
À tout à l'heure, soignez votre rhume. La météo, Patricia Charbonnier, le froid revient.
Oui, les températures baissent à partir d'aujourd'hui. Alors pour le moment, on a toujours des valeurs de saison avec 4 degrés cet après-midi à Mulhouse, 5 à Lille, 7 à Paris et Cherbourg, et jusqu'à 14 degrés à Nice, sous un temps qui reste encore assez instable sur les régions de l'Est, avec encore quelques averses de neige jusqu'à très basse altitude, jusqu'au Massif central. Encore beaucoup de neige attendue sur les Pyrénées d'ici demain soir, avec de violentes rafales de vent en altitude. On a toujours les 4 départements pyrénéens placés en vigilance orange avalanche. Et puis ailleurs, c'est un temps plutôt calme cet après-midi, avec quelques éclaircies.
Et demain, attention, tempête en vue.
À partir de demain après-midi, cette tempête qui est en train de se dessiner, pour le moment on ne connaît pas encore très bien sa trajectoire, la tempête Gabriel, qui va déjà donner de la pluie demain matin sur la côte atlantique. Et c'est surtout à partir de demain après-midi que les conditions météo vont se dégrader, avec le vent qui va se renforcer sur la côte atlantique. On attend des rafales quand même à 130 km/h sur les côtes, 100 dans les terres, beaucoup de pluie sur les régions de l'ouest, et au contact de l'air froid, eh bien les précipitations vont se faire sous forme de neige, surtout dans la nuit de mardi à mercredi au nord de la Loire. Donc sans doute une vigilance qui va arriver dans le courant de l'après-midi pour le vent, et demain matin pour cet épisode neigeux assez notable.
Merci Patricia.
La météo avec le réseau de fenêtres partenaires certifié Jeannot. Découvrez la première fenêtre très haute sécurité. Informations et points de vente sur partenaire-jeannot.fr.
Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard.
RTL, il est 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour. 116 vies épargnées rien que sur les tronçons à 80 km/h depuis le 1er juillet dernier. Et sur un plan général, 3259 tués sur les routes de France l'année dernière. Un plus bas historique annoncé ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe, qu'il juge légitime de discuter des 80 km/h, mais préfère s'en remettre aux responsables départementaux qui devront prendre leurs responsabilités, selon le Premier ministre. Pour Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club, le 80 km/h n'a rien à voir avec les bons résultats de la sécurité routière.
C'est une baisse historique. C'est très très bien, mais l'attribuer aux 80 km/h, c'est inexact. Pourquoi ? Parce que cette baisse a démarré bien avant le 1er juillet 2018. Et il faut se souvenir aussi qu'en juillet et août, il y a eu beaucoup, beaucoup de voitures flashées justement sur ces routes, donc qui allaient dans cette zone de l'excès de vitesse, d'inattention, des moins de 1 km/h. Bien sûr, il ne faut pas être dangereux. Et donc, ça a quand même amené une baisse de la mortalité. Tout le monde s'en félicite. Donc, l'attribuer aux 80 km/h, c'est interpréter un bilan d'une façon très personnelle. Il est évident que le Premier ministre ne peut pas se désavouer en disant « je renonce aux 80 km/h » après l'acharnement qu'il a montré pour le défendre. Voilà, il donne la patate chaude au préfet, au président de département, il redonne de l'importance aux élus locaux. C'est une façon noble de se sortir de ce mauvais pas, on va dire.
Yves Carra avec Christophe Bourou pour RTL. Situation exceptionnelle depuis quelques jours dans une maison de retraite du Loiret à cause de la grippe. Le virus est soupçonné d'avoir causé la mort de 6 personnes, 4 pensionnaires mais aussi 2 soignants. L'établissement situé à quelques kilomètres d'Orléans fait l'objet d'un confinement. Écoutez la mise au point prudente de la directrice de l'EHPAD, Edwige Rivoire.
Un seul des cas de décès est formellement attribué à la grippe. S'agissant de personnes très âgées qui ont des pathologies multiples et des fragilités multiples, il ne faut pas tirer de conclusion sur était-ce la grippe, n'était-ce pas la grippe et quel quid du vaccin.
Et en ce qui concerne les personnels, sans rentrer dans le détail, les deux personnes étaient atteintes de la grippe ou pas ?
Les deux personnes présentaient un syndrome grippal. Je dis que ça n'est pas parce que ces personnes présentaient un syndrome grippal qu'elles sont décédées de ce syndrome grippal tant que le lien n'est pas médicalement et juridiquement établi.
Edwige Rivoire avec Christian Porvert pour RTL. Incendie criminel chez nos confrères de France Bleu Isère à Grenoble la nuit dernière. 2 départs de feu à l'intérieur des locaux, une porte d'entrée fracturée et la radio dans l'impossibilité d'émettre aujourd'hui. Serge Pueyo, les salariés sont bien sûr sous le coup de l'émotion.
Oui, le personnel de France Bleu Isère est sous le choc ce matin devant les locaux dévastés de leur radio ravagés par cet incendie criminel. Jean-Loup Philippe, le directeur de la station.
Les dégâts sont considérables. Au rez-de-chaussée, il ne reste plus rien à part les murs et les vitres. Tout le matériel est parti en fumée. C'est juste inqualifiable. Et on ne comprend pas. On n'a pas reçu de menace. L'outil est inexploitable. Combien de temps ? J'imagine un certain temps.
Céline Loiseau est journaliste et comme tous ses collègues, elle a du mal à cacher son émotion.
Il y a quand même quelques larmes qui montent aux yeux parce que c'est notre outil de travail qui est touché, qui a été attaqué. Et puis c'est aussi un peu malgré tout notre deuxième maison. On y passe beaucoup de temps et je vous le disais, voilà, il y a des personnes qui sont là depuis plus de 30 ans. Voilà, cette radio-là, ils l'ont vraiment dans leur cœur. Jamais on pense que les locaux où on vient tous les jours pourraient être incendiés.
Concernant le ou les auteurs de l'incendie, aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. Il n'y avait pas de tension particulière entre France Bleu Isère et les gilets jaunes locaux. Il faut savoir aussi que depuis 2 ans, un groupuscule d'ultra-gauche a revendiqué plusieurs incendies de gendarmerie et d'entreprises dans la région sans jamais être identifié.
Serge Pueyo à Grenoble pour RTL. Évasion spectaculaire ce matin devant le palais de justice de Tarascon. Un commando armé de 3 hommes délivre un prévenu de la prison de Béziers, attendu au tribunal pour être entendu par un juge. Une fonctionnaire blessée par un coup de crosse, des coups de feu tirés en pleine rue. Un témoignage important ce matin au procès des 2 policiers du prestigieux 36 quai des Orfèvres, accusés de viol au palais de justice de Paris. Celui d'une policière qui a parlé longuement avec la victime juste après les faits. Elle a évoqué un scénario inédit, Alice Moreno.
Effectivement, alors la jeune femme se souvient bien de cette Canadienne en larmes, tremblante au pied du 36 quai des Orfèvres, sans aucun doute possible, en état de choc, qu'elle lui a bien répété avoir été violée, mais la plaignante lui aurait aussi précisé « J'ai suivi un policier dans les bureaux du 36, je ne suis pas bête, je savais qu'il pouvait se passer quelque chose. » Autrement dit, qu'elle aurait pu avoir un rapport sexuel avec un des agents de la BRI, mais un seul, car la policière poursuit, et selon elle, la plaignante n'aurait plus été d'accord dès lors qu'une relation à plusieurs se profilait. À la fin de son audition, pourtant, la policière se ravise quand un avocat de la défense insiste sur ce point. À vrai dire, c'est très loin et je ne sais plus si c'est elle qui m'a dit tout ça ou si je l'ai déduit toute seule grâce à mon expérience dans la police.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. La Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
C'est difficile aujourd'hui à la Bourse.
Et oui, après 4 semaines de hausse d'affilée et un gain de 5,3%, le marché parisien marque quand même une pause. Le CAC 40, 7,05%, 4901 points. Pourtant, à Wall Street, vendredi, les boursiers ont fêté la fin provisoire du shutdown. Les agences fédérales sont rouvertes au moins jusqu'au 15 février. Cette bonne nouvelle ne peut pourtant pas masquer les incertitudes qui pèsent encore sur les marchés. À commencer par le Brexit, la Chambre des communes doit se prononcer demain sur les amendements destinés à éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord. Ensuite, le dossier commercial est loin d'être réglé. Le vice-ministre chinois arrive à Washington mercredi pour un nouveau cycle de discussions. Et on attend bien sûr plusieurs résultats trimestriels importants, dont ceux d'Apple demain soir. Bref, vous l'avez compris, les investisseurs préfèrent rester prudents. Sur le front des entreprises, Siemens et Alstom confirment avoir fait des concessions afin d'obtenir le feu vert de la Commission européenne à leur rapprochement. La Commission les juge insuffisantes. Alstom cède 2%.
Une bourse prudente. Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Une pause et dans un instant, à vos téléphones au 3210. Les auditeurs ont la parole. C'est Pascal Praud.
Vous écoutez RTL.